D'un crépuscule qui se confond avec une aube. En tout cas, on a pris soin de la lumière. Un lampadaire, vu de loin, se confond avec la lune et crée ce qu'il faut d'éclairage pour laisser apparaître cette seule présence humaine, celle d'un enfant au milieu des abris de fortune. C'est une photo d'Adam Dean pour le New York Times, celle d'un camp de réfugiés Rohingya au Bangladesh. Vous êtes sur France Culture, c'est le magazine du week-end et nous sommes ensemble jusqu'à 13h50. La situation des réfugiés Rohingyas, ce sera l'objet de notre second plateau. Mais intéressons-nous tout d'abord à l'enfance, à la justice des mineurs précisément. Une réforme doit être présentée à l'Assemblée nationale dans le courant du mois de septembre. Une réforme sans débat parlementaire au préalable de l'ordonnance de 1945 qui fixe les règles de procédure pénale pour les enfants délinquants. Ordonnance qui a déjà subi une quarantaine de modifications. Là, ce qui se profile, c'est un seuil de responsabilité pénale à 13 ans, une diversification des modes de prise en charge pour éviter d'accroître le nombre de détentions provisoire, la création d'une mesure éducative d'accueil de jour et une nouvelle procédure pénale sans mise en examen. Voilà pour les objectifs principaux affichés d'une réforme de la justice des mineurs à marche forcée.
Le magazine du week-end, Émilie Chaudet.
Et nous allons en discuter en détail de ces mesures et voir si elles sont réalisables, souhaitables, en compagnie de nos deux invités, Jean-Pierre Rosenzweig, avec nous au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes magistrat, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Vous l'avez été de 1992 jusqu'en 2014. Et avec vous pour discuter, Steven Tréguer. Bonjour.
Bonjour Émilie Chaudet.
Vous êtes directeur général de la Fondation Jeunesse Feu Vert, une fondation d'accompagnement éducatif et d'insertion professionnelle pour les mineurs et les jeunes majeurs. Et vous êtes présent en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-France et dans l'Essonne. Et vous accompagnez 11 000 jeunes au sein de cette fondation.
Jamais on ne peut dire avec un gosse de 13 ou 14 ans, c'est fini. Il n'y a plus rien à en tirer. Ce serait, à d'une certaine façon, nier la nature humaine, d'une part, et d'autre part, nier la vocation de la République.
L'ordonnance de 45, elle permet beaucoup de choses. Naturellement, elle ne permet pas de mettre en prison un tout petit. Mais elle permet les centres de placement immédiat, elle permet les centres d'éducation renforcée, elle permet la prison pour ceux qui ont plus de 16 ans et qui ont commis des choses extrêmement graves.
J'ai toujours considéré qu'il fallait, pour les jeunes délinquants multirécidivistes, qu'il fallait les cadrer, serrer dans des centres que j'appelais éducatifs renforcés. Mais éducatifs, chaque cas est un cas individuel. Et l'individualisation de la peine, spécialement s'agissant des mineurs, est quelque chose d'absolument fondamental.
La justice des mineurs doit être une justice spécialisée. Elle a eu tendance à le perdre ces dernières années parce qu'il y a eu un discours démagogique qui mettait en doute l'ensemble de la jeunesse de ce pays. Or, la jeunesse de ce pays, c'est tout simplement l'avenir de ce pays.
On vient d'entendre les voix de Jacques Toubon, Marie-Lise Lebranchu, Elisabeth Guigou, Christiane Taubira, tous anciens gardes des Sceaux qui s'expriment sur la justice des mineurs et sur l'ordonnance de 1945, ordonnance qui a instauré le juge des enfants et qui n'a cessé d'être modifiée, je le disais en tout début d'émission, une quarantaine de fois. On entend Elisabeth Guigou insister sur la dimension éducative, Christiane Taubira insister sur la dimension de la spécificité de la justice des mineurs et cette ordonnance de 1945 insiste, elle, sur les mesures de protection et d'éducation. Et aujourd'hui, un rapport parlementaire pointe une judiciarisation croissante de la réponse apportée au comportement des mineurs. Alors déjà, Steven Tréguer, vous, comment, avec les jeunes que vous accompagnez au sein de votre fondation, vous la ressentez, cette tension entre volonté de protection et d'éducation, et puis finalement, ce glissement vers la judiciarisation, peut-être parfois excessive selon les cas? Vous allez me le dire. Nous le dire.
Oui, ce qu'il importe de relever dans les propos qui ont été tenus par, je crois qu'ils étaient tous d'anciens ministres, oui. D'ailleurs, c'est la primauté de l'éducatif sur le répressif. Donc le premier point, finalement, qui ressort de l'ordonnance de 1945, c'est bien celui-là. Et c'est là-dessus que se basent les travailleurs sociaux au quotidien. Alors qu'ils soient en établissement, puisque tout à l'heure on a entendu, je crois que c'était Elisabeth Guigou, insister sur les établissements en tant que tels. Donc on a différents types de centres. Elle parlait des centres éducatifs renforcés, oui, qu'on distingue des centres éducatifs fermés notamment. Donc effectivement, il y a ces modes d'accompagnement en établissement, mais il y a aussi et majoritairement des modes d'accompagnement dits en milieu ouvert, donc les jeunes dans leur environnement. Donc ça, je pense que c'est un premier point à retenir. Et effectivement, vous l'avez dit, il y a eu 40 modifications à l'ordonnance de 45, ce qui est un nombre important. Et de nouveau, finalement, une réforme va intervenir. Et si, donc, pour répondre tout à fait à votre question, ce que je souhaiterais dire, c'est que la question des moyens doit nécessairement être associée, puisqu'on prévoit l'ouverture de 20 centres éducatifs fermés, qui est la mesure la plus forte, hors emprisonnement, tout simplement dans le dispositif. Et on peut se questionner aussi des moyens qui sont attribués très concrètement au quotidien aux éducateurs qui suivent les jeunes dans leur environnement, à leur domicile, alors qu'on sait qu'en France, les éducateurs doivent suivre 25 jeunes. Et si on compare, par exemple, à Montréal, le délégué à l'enfance en suit simplement 14. Et donc, il y a cette question-là qui est existante. Et aller renforcer les moyens de type centre éducatif fermé, mettre les moyens dans une réforme à ce niveau-là, c'est ne pas les mettre sur d'autres dispositifs qui sont moins contraignants.
Et donc cette question des moyens, on va en parler à peu près tout au long de cette discussion parce qu'elle est centrale. Il n'y a pas de débat parlementaire, c'est une réforme qui va passer par ordonnance, cette réforme de la justice des mineurs, mais il y a eu une concertation avec des magistrats en février dernier jusqu'à la présentation de cette mesure, de cette future réforme au centre de protection judiciaire de la jeunesse à Savigny-sur-Orge par la garde des Sceaux Nicole Belloubet. Et les magistrats ont trouvé que cette concertation, même si elle avait existé, n'a pas été suffisante. Jean-Pierre Rosenzweig, Nicole Belloubet va donc mettre en place 20 centres éducatifs fermés et va créer de nouvelles unités d'éducation de jour. Qu'est-ce que ces nouvelles créations vont apporter? Est-ce qu'elles sont nécessaires? Est-ce que ces moyens-là sont nécessaires aujourd'hui?
Bien évidemment, non. Alors, on va pas se contenter de l'affirmer, il faut le démontrer. Mmh. Vous savez pas que dans un centre éducatif fermé, 10 jeunes, 12 au maximum, peuvent être accueillis. Sur l'année, ce sont 1500 jeunes qui sont accueillis. Or, il y a 65 000 jeunes qui sont tenus pour délinquants par la justice. Il y en a 200 000 qui sont tenus pour délinquants par la police et parfois par le parquet. 1500 par rapport à 65 000 ou par rapport à 200 000, vous voyez bien que c'est pipeau. En d'autres termes, c'est de l'affichage. Ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est ce qui vient d'être dit il y a quelques instants. C'est qu'un éducateur a à suivre 25 situations, ce qui est quasiment impossible. Mais surtout, le fait que les éducateurs ne peuvent pas suivre les situations. Les magistrats d'Aubigny l'avaient dit en leur temps qu'ils ont été relayés par 250 juges en France. Il faut un an ou un an et demi pour qu'une mesure soit prise. Alors, ça sert à quoi de changer la loi? Alors, aujourd'hui, les mesures sont prises en ce qu'on appelle en présententiel, c'est-à-dire avant que le jeune ne soit condamné. Demain, le jeune va être condamné très rapidement et la mesure va être prise. Mais je disais l'autre jour à Mme Belloubet qu'il y a la différence entre une mesure présententielle qui n'est pas exécutée et une mesure post-sententielle qui n'est pas exécutée. Alors, maintenant, la mesure d'accueil du jour, mais elle existe déjà depuis 15 ans. Elle n'est pas mise en œuvre. Alors, on est en train de nous enfumer. Le fait que, avant 13 ans, on ne puisse pas être condamné en justice, mais c'est déjà le cas, puisque c'est 7-8 ans où on peut avoir le discernement, mais en pratique, il n'y a pas de poursuite après. Et surtout, on vient nous dire que le juge, le procureur d'abord, le juge ensuite, pourront effectivement estimer que quelqu'un qui a moins de 13 ans peut être poursuivi. En d'autres termes, on affiche 13 ans, mais on laisse les juges décider de poursuivre quelqu'un à 10 ans ou à 11 ans.
Les exceptions sont possibles.
C'est de l'enfumage. Et j'ajoute, pour montrer, je vais être volontairement provocateur, la méconnaissance de la classe politique des questions dont nous parlons. Tout à l'heure, Mme Lebranchu, la deuxième intervenante, disait qu'on ne pouvait pas incarcérer en France un jeune avant de 16 ans. Mais non, c'est 13 ans. En d'autres termes, on s'apprête à légiférer sur un sujet qui est mal connu avec des mesures qui sont inadaptées. Et en plus, comme vous venez de le dire à l'instant, et c'est répondre à votre question, c'est une fausse concertation. La concertation des magistrats est issue très, très sommaire, la consultation des politiques, n'en parlons pas. Donc, maintenant, revenons au fond des choses et en deux secondes. Est-ce qu'effectivement une réforme de cette nature s'impose? Non. Est-ce qu'effectivement il faut, plutôt que de réformer la loi, il faut veiller à l'application de la loi? Oui. C'est ça la question qui est posée. Et ça fait maintenant 5 ans que nous le disons, 10 ans que nous le disons. Moi, je l'ai dit à Mme Taubira pour ne pas, pour parler de la plus récente. Avant de changer la loi, veillez à ce que la loi soit appliquée. Eh bien, la réforme, Mme Bédoubé, n'a aucun enjeu. J'ajoute ce qu'on ne dit jamais. Petit 1, la délinquance juvénile baisse. Elle baisse en quantité, elle baisse toute proportion gardée. C'est franchement pas le moment où il faut changer la loi. La délinquance est en train de baisser. Et deuxièmement, il faut le dire, il y a 800 jeunes qui sont actuellement en prison, 800 entre 830. Ça, on le dit pas non plus. En d'autres termes, on a une loi qui fonctionne bien, quand on veut bien la faire fonctionner, pour réprimer. Il faut même faire en sorte maintenant que cette même loi, elle puisse mettre en œuvre des mesures éducatives, mais c'est pas le juge qui est le problème. C'est pas la loi qui est le problème. C'est les moyens mis à disposition par l'État. Et on rejoint, en un mot, on rejoint la question qui était posée votre interlocuteur de Feu Vert. C'est que les mesures éducatives au quotidien, c'est-à-dire les clubs et équipes de prévention qui sont au quotidien au contact avec les enfants en difficulté, avec les familles en difficulté, on est en train plutôt de les augmenter, on est en train de les diminuer. Il y a déjà 17 départements qui ont arrêté la prévention spécialisée. Quand vous savez qu'en plus, le service social scolaire, le service de santé scolaire est désormais la protection maternelle et infantile, la santé psychiatrique, tous ces services sont en crise. Ça veut dire que quand des parents ont des difficultés avec leurs gosses, quand des gosses ont des difficultés avec leurs parents ou leur environnement, ils vont trouver personne autour d'eux. Mmh. C'est pas changer la loi qui va résoudre quoi que ce soit. En ne faisant pas le travail qu'on devrait faire sur le terrain, dans 5 à 10 ans, avec la nouvelle loi, ou sans nouvelle loi, mais en tout cas même avec la nouvelle loi, on aura 10 fois plus de problèmes qu'aujourd'hui.
Alors juste avant de vous laisser poursuivre, Monsieur Rosenzweig, j'aimerais redonner la parole à Steven Treger pour continuer justement sur ce qui dysfonctionne aujourd'hui. Jean-Pierre Rosenzweig disait à juste titre, puisque des chiffres d'un rapport du Comité national consultatif des droits de l'homme l'attestent, que depuis 15 ans, la délinquance des mineurs n'a cessé de baisser. Or, l'enfermement des mineurs a augmenté, notamment aussi parce qu'il y a de plus en plus de jeunes en détention provisoire. Et c'est aussi ce qu'annonce vouloir résoudre cette réforme de la justice des mineurs. Steven Treger sur cette question.
Oui, je pense que Jean-Pierre Rosenzweig vient de le dire. C'est-à-dire qu'il a donné les chiffres qui permettent de comprendre qu'on ne propose pas de solution réellement, compte tenu du nombre de jeunes présents. Et je voulais rebondir sur ce qu'il a pu indiquer. C'est vrai qu'il y a, pour l'accompagnement éducatif au quotidien, il y a différentes problématiques. Si on prend l'exemple d'un établissement, il y a la problématique sociale. Il faut bien se représenter que les
d'un établissement,
jeunes,
c'est-à-dire
Un établissement d'accueil.
D'accord.
C'est-à-dire que le magistrat prend une mesure et demande une fondation, par exemple, comme la fondation Jeunesse Feu Vert, d'accueillir un jeune dans une structure qui est habilitée pour. Voilà. Nous, on en a une en Sud-Essonne, à Ormois-la-Rivière, qui est cohabilitée au titre de la protection de l'enfance, quand il y a une mesure qui est prise au civil pour protéger le jeune. C'est comme ça que c'est prévu. Et nous accueillons également des jeunes qui sont accueillis au titre de l'ordonnance de 45. Non pas qu'ils ne soient pas dans une situation où on doit les protéger, mais parce qu'ils ont commis un acte qui justifie qu'ils soient accueillis et le magistrat a considéré qu'ils devaient être accueillis dans un établissement. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons plusieurs problématiques. Les jeunes viennent de milieux sociaux défavorisés. La structure familiale est peu stable, voire complètement éclatée. Viennent là-dessus différentes problématiques telles que les addictions. Voilà, donc il y a un travail à réaliser sur la question des addictions. Là, on a les moyens, il y a des dispositifs pour le faire. Il faut se garantir de la volonté du jeune d'aller vers ce chemin-là.
Miser sur la prévention, c'est-à-dire aller vers le milieu d'origine des jeunes concernés.
Oui, alors ça c'est plutôt la mission de la prévention spécialisée. Jean-Pierre Rosenzweig l'a dit tout à l'heure, il y a 17 départements qui ont cessé les missions de prévention spécialisée. Alors effectivement, la Fondation Jeunesse Feu Vert a la majorité de ses moyens sur la prévention spécialisée. En très clair et très synthétique, la prévention spécialisée, ce sont des éducateurs de rue qui sont présents dans l'espace public et qui rencontrent donc des jeunes qui peuvent avoir des problématiques. Donc ça peut être des démarches de santé, par exemple, qui ne sont faites par personne. Alors ça peut être du soin besoins physiques, psychiques, mais donc des difficultés scolaires, donc un décrochage scolaire notamment. Donc le but, c'est de travailler avec l'éducation nationale pour les faire revenir dans le milieu scolaire. Mais c'est aussi du lien avec la protection judiciaire de la jeunesse, puisque certains d'entre eux ont pu commettre, par exemple, des délits. Et donc il s'agit de travailler pour faire en sorte, au quotidien et dans le lien avec eux, en leur proposant différentes possibilités, en utilisant différents outils, de faire en sorte qu'ils ne se placent plus dans ce genre de situation. Enfin, je crois que le rapport d'information auprès du Parlement utilise le terme de rétablissement moral et éducatif du jeune. Voilà, c'est le terme qui est utilisé. L'appellation, on peut en discuter, mais le principe, c'est celui-là, c'est-à-dire que c'est d'être auprès du jeune, mener des actions éducatives pour faire en sorte qui est soit une scolarisation, soit une insertion, si aucune des deux n'est présente, et faire comprendre aussi aux jeunes, par différents biais, que ce qu'il a fait, n'était pas positif, était négatif, et qu'effectivement, on doit l'accompagner pour faire en sorte qu'il ne retombe pas dans ses travers.
Et il y a aussi la question de la récidive aujourd'hui. Alors, Jean-Pierre Rosenzweig, vous avez vraiment tenu à distinguer lors d'un récent entretien des jeunes qui enfreignent la loi et des délinquants. Le délinquant, c'est vraiment un jeune délinquant, c'est un jeune qui est inscrit dans une spirale où voilà, il a déjà récidivé, il a déjà recommencé. Et ça, c'est un aspect que les réformes pénales de la justice des mineurs ne prennent pas en compte, et celles-ci non plus, a priori.
Je veux dire, celle-ci, pas plus et pas moins que la précédente. On ne peut pas entrer en détail pour vos auditeurs, parce qu'on est quand même un dimanche et sur France Culture, on ne peut pas entrer en détail, mais je peux vous assurer, pour le politicien que je suis, que cette réforme n'apporte rien, elle ne change rien, c'est une réforme d'affichage. Elle ne change rien aux pratiques que demain les juges auront, positives ou négatives. D'autant, mais la vraie question, c'est est-ce que les mesures que les juges vont être amenés à prendre quand les policiers auront arrêté les jeunes, ils ont un taux de réussite qui n'est que de 30%. Quand le procureur aura poursuivi, quand le juge sera intervenu, aura pris des décisions, si cette décision n'est pas appliquée, tout ça n'a strictement aucun intérêt. Alors maintenant, pour revenir à votre question fondamentale, oui, beaucoup de gens commettent des délits. Ils sont des délinquants. Je vous dis un jour un ministre publiquement qui l'a avoué. Il me disait, quand j'étais jeune, j'ai volé du chocolat. Je lui ai dit, monsieur, vous avez volé. Vous étiez un délinquant, mais vous n'étiez pas un délinquant au sens sociologique du terme. Un délinquant au sens sociologique du terme, c'est quelqu'un qui est inscrit dans une démarche où il est en conflit avec la loi, pour reprendre l'expression de la Convention internationale sur le droit de l'enfant. C'est-à-dire que quand il commet un délit, il en commet 10. C'est pour ça que l'idée de récidive pour les mineurs, c'est une bêtise, c'est une tautologie. Un jeune vraiment délinquant, il passe son temps à commettre des délits. Alors, la question qui à ce moment-là est posée, qui est très politique, c'est comment au plus tôt, on peut aider les parents à plaquer aux jambes si les parents sont défaillants. Comment on peut soutenir une intervention qui amène, avec des gamins qui sont nihilistes, qui sont suicidaires, qui n'ont aucune estime d'eux-mêmes et qui n'ont pas en face d'eux des adultes qui font le poids. Il faut leur offrir ces adultes. On les a plus dans les quartiers, on les aura pas demain à partir du tribunal. Donc 0 + 0 = 0. La vraie question qui est posée, c'est comment garantir à tous ces jeunes qui sont en grande difficulté, qui sont prêts à faire n'importe quelle connerie, excusez-moi de parler crûment sur France Culture, mais qui sont prêts à faire n'importe quelle connerie, comment leur offrir en face des jeunes, des adultes, pardon, qui vont leur redonner l'estime d'eux-mêmes, qui vont leur dire, écoute, t'as des qualités, mais quitte à vendre du shit, fais-toi commerçant, fais-toi un véritable commerçant, et sois pas dans la marginalité.
Stephen Traeger, on les a perdus, les adultes dans le quartier.
Les ennemis. Pardon, excusez-moi.
Excusez-moi, je voulais pas vous interrompre, mais juste, je trouvais intéressant cette phrase que vous avez, on les a perdus, les adultes dans les quartiers. Stephen Traeger est bien placé pour répondre, pour en attester ou nuancer la réalité sur le terrain.
Alors, dans certains départements, manifestement, les chiffres ont été évoqués tout à l'heure. Bon, je ne vais pas citer tous les départements qui ont supprimé la prévention spécialisée. Il vaut peut-être mieux se centrer sur les départements qui ont fait le choix de maintenir la prévention spécialisée, puisque il faut bien se rendre compte que qui est dans la rue auprès des enfants au quotidien. ce ne sont pas les travailleurs sociaux classiques qui ont une autre mission de service social. Ce sont bien les éducateurs spécialisés en prévention spécialisée. C'est important de le préciser, c'est-à-dire que qui est dans la rue avec eux au quotidien, c'est ce que Jean-Pierre Rosenzweig évoque. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut des moyens avec des contacts quotidiens, hebdomadaires.
Et quels moyens de quels moyens disposez-vous concrètement à la Fondation Feu Vert,
par exemple ? Alors aujourd'hui, par exemple à Paris, alors on est le principal acteur en prévention spécialisée en Ile-de-France. À Paris, on a 15 équipes réparties sur 5 arrondissements. Il y a d'autres clubs de prévention. Il y a 10 clubs de prévention à Paris, mais nous en sommes le principal. Nous avons des équipes de 3 à 4 éducateurs, parfois 5. Sur un territoire délimité, ils interviennent auprès des jeunes. Pour voir s'il y a une demande. Ils partent du principe de l'adhésion. C'est-à-dire qu'ils recherchent l'adhésion du jeune. Il n'y a pas de mesure, comme on l'évoquait tout à l'heure. Quand un jeune va en établissement, c'est qu'il y a une mesure. Un magistrat a pris une mesure. Là, il n'y a pas de mesure. C'est-à-dire que on est sur la libre adhésion, on est aussi sur une notion d'anonymat. Et en fait, on cherche à avoir la confiance du jeune pour essayer de construire avec lui un projet de scolarisation, un projet d'insertion, un projet de soins le cas échéant. Et donc on lui propose différentes activités collectives. On l'aide dans les démarches aussi parce que pour certains, c'est très facile quand on a des parents de faire des démarches vis-à-vis de la sécurité sociale, mais ça n'est pas le cas. Et vous, de fait, vous développez ensuite des pathologies parce qu'elles ne sont pas traitées. Sur l'insertion, tout le monde n'est pas en mesure d'être orienté, notamment dans certains quartiers, par son milieu familial. C'est aussi une question républicaine, une question pour la République. La prévention spécialisée à cette mission d'intervenir auprès des jeunes. Certains départements la considèrent comme une compétence facultative. C'est une politique qui est rattachée à la protection de l'enfance. Dans le rapport d'information de l'Assemblée nationale, il y a un vœu qui est formulé, ou une recommandation, je ne sais plus le terme exact, qui est de rattacher la prévention spécialisée à la protection judiciaire de la jeunesse. Moi, je pense qu'il faudrait la maintenir dans le champ de la protection de l'enfance.
Ce qui impliquerait une judiciarisation de cette unité ?
C'est-à-dire que si on part du principe qui était évoqué aussi par Jean-Pierre,
on quitterait la prévention.
C'est la question de l'enfance en danger. La protection de l'enfance, c'est l'enfance en danger. Et les jeunes qui sont dans le quartier, y compris s'ils commettent des actes délictueux, il n'en reste pas moins qu'il y a toujours une dimension de protection. Et d'ailleurs, la moitié des jeunes qui bénéficient de mesures au titre de la protection judiciaire de la jeunesse, donc au titre de l'ordonnance de 45, ont un passé en protection de l'enfance. La moitié. Et votre consoeur, Élise Lucet, avait dans son émission Pièce à conviction, si j'ai bonne mémoire, et en première partie de soirée pour une fois, c'est-à-dire que le sujet était marquant, avait fait un reportage justement sur l'issue pour les jeunes, enfin pour une part des jeunes en tout cas, à 18 ans, après leur parcours en protection de l'enfance. Donc je pense que c'est important de noter la dimension de protection, y compris s'il y a des actes délictueux qui sont réalisés.
Alors cette dimension de protection, on va y venir. Et tout à l'heure, Jean-Pierre Rosenzweig, je vous trouvais un peu dur de dire que cette réforme ne change rien. En tout cas, telle qu'elle est présentée, il y a quand même la création d'une nouvelle mesure qui est une mesure éducative d'accueil, quelque chose qui se veut, en tout cas dans l'annonce, une troisième voie entre le placement et le milieu ouvert et qui permettra une action éducative quotidienne sur le papier, en tout cas. Après, on peut poser la question des moyens, mais il y a quand même des nouveautés dans cette réforme, de même que cette tentative d'allègement des délais entre le moment où on prononce une accusation et puis le moment où la peine est définie. Ça aussi, c'est une nouveauté. Après la question des moyens se pose.
C'est intéressant de voir comment vous avez été enfumé, mais alors vraiment, totalement.
Je me fais l'avocat du diable, Jean-Pierre Rosenzweig. Il en faut sur ce plateau.
Bien, je plaisante. Dimanche, au mois d'août, on peut plaisanter aussi. La mesure d'accueil de jour, mais elle existe depuis 10 ou 15 ans. Elle n'a pas été. C'était la mesure phare de la protection judiciaire de la jeunesse. On nous a seriné à l'époque que c'était tellement important qu'on allait la mettre en œuvre, qu'elle avait un avantage d'ailleurs, il y a une obligation, c'est qu'elle obligeait les travailleurs sociaux à travailler à plusieurs, il fallait mutualiser les moyens pour parvenir à prendre en charge 10-15 jeunes au quotidien. L'idée était qu'il n'y ait plus un gosse suivi par la PJJ qui ne soit dans son lit à 9h du matin, donc on allait prendre en charge dans les centres de jour et avec un accompagnement très très encadré. Ça n'a jamais été mis en œuvre. Avec quel moyen nouveau va-t-on dégager ? Au passage, ce que j'ai dit à Mme Belloubet l'autre jour, si vous voulez y arriver, vous n'aurez pas plus de moyens économiques que par le passé. Il faut mobiliser la société civile. Il y a dans ce pays beaucoup de gens qui sont prêts à venir aider les éducateurs professionnels si on les mobilise. Je referme la parenthèse. Le deuxième point, vous dites, jugez vite. Mais jugez vite, si on ne met pas en place les décisions, ça ne sert strictement à rien. Deuxièmement, ça laisse à penser que le temps qui existe aujourd'hui entre le moment de la mise en examen et le temps du jugement est un temps inutile. Mais non, c'est justement l'essence de l'ordonnance de 1945. C'est là où se met en œuvre la mesure éducative. Donc, jugez vite, condamnez vite. Quel intérêt ? Mais quel intérêt ? Et en quoi ça va nous garantir que les gamins qui sont fortement inscrits dans la délinquance ne vont pas réitérer ? Tant qu'on n'aura pas compris que l'action du tribunal, c'est de l'action sociale judiciaire, elle est judiciaire, mais c'est d'abord de l'action sociale. On peut faire intervenir le procureur, on peut faire intervenir le juge, mais si on ne fait pas intervenir les travailleurs sociaux, ça n'a strictement aucun intérêt. Alors, il faut nuancer la peur du juge, la peur du policier, la peur du procureur, ça peut contribuer à mobiliser les gens. Je termine en deux secondes sur ma péroraison. Deux points importants, parce qu'on les a, on l'a pas cité. Je disais aussi à Mme Belloubet, puis à d'autres parlementaires l'autre jour, avant de réformer l'ordonnance de 45, commencez par, sous prétexte qu'il y a une carence éducative, commencez par instituer les adultes qui doivent être responsables. Qui sont les adultes responsables aujourd'hui dans les familles en grande difficulté? Ben, c'est les beaux-pères et c'est les belles-mères, c'est les beaux-parents qui ne savent pas comment réagir par rapport à des gamins qui ne sont pas les leurs et avec qui pourtant ils vivent. Quitte-toi, t'es pas mon père, va te faire foutre. Combien de fois j'ai entendu cela? Une des priorités, c'est la loi sur l'autorité parentale, la responsabilité parentale qui identifie les beaux-pères et les belles-mères en situation de responsabilité sur les actes de la vie quotidienne. Deuxième enjeu, la plupart des gamins, même qui s'apprêtent à être délinquants, sont à l'école. Il faut renforcer le service social scolaire qui est en crise depuis 1970. Il faut que l'État et les départements mobilisent des moyens nouveaux, non pas en créant des postes, mais en faisant en sorte que les travailleurs sociaux du département puissent tenir des permanences dans les écoles. Vous voyez que ça, c'est pas le changement de la loi, c'est la mise en œuvre de la loi. Dans ce pays, les mêmes qui contestent que toutes les cinq minutes le Parlement fait la loi, dès qu'ils sont au pouvoir, ils recommencent et ils font des conneries. Et une connerie majeure, c'est celle, effectivement, qui consisterait à confier la prévention spécialisée à la PJ. Comment voulez-vous que dans les quartiers, les éducateurs qui sont censés travailler avant qu'un gosse ait fait une bêtise, ait fait une connerie ou un délit, et qui savent qu'il est tenu par le secret professionnel, comment voulez-vous que les jeunes qui connaissent les éducateurs de prévention aient confiance en eux si demain ils travaillent avec le juge ? Et c'est une méconnaissance totale de la réalité de l'action sociale que des parlementaires qui n'y connaissent rien, qui n'ont pas vu ces dossiers depuis plus d'un an, comment ils peuvent imaginer un seul instant que la PJJ puisse gérer la prévention spécialisée? Mais c'est de l'incompétence.
Je voudrais revenir, Jean-Pierre Rosenweg, et redonner la parole à Steven Treger, puisqu'il s'agit d'une discussion sur vraiment le partage, la mise en œuvre de ce qui existe déjà. Vous parliez à juste titre de l'inclusion de la société civile dans la protection de l'enfance et dans la réforme de la justice des mineurs, dans la prise en charge de l'enfance délinquante. Vous, au sein de la Fondation Feu Vert, est-ce que vous faites appel à la société civile, Steven Treger? Est-ce que la société civile, il faut comprendre par là les familles d'accueil? Est-ce qu'il faut comprendre par là des gens qui viennent vous voir pour vous aider dans votre travail d'éducateur? Est-ce que ça, c'est une piste intéressante qu'on pourrait soumettre à des parlementaires qui s'occupent justement de cette réforme?
Alors oui, Jean-Pierre Rosenzweig le disait tout à l'heure, la question de la société civile est une question importante. Je parlais tout à l'heure, il le faisait aussi, hein, mais du lien notamment avec l'éducation nationale, c'est pour ça, et c'est important de le dire, c'est pour ça qu'on intervient en lien avec l'éducation nationale, c'est justement pour tisser ce lien et que quelqu'un tisse le lien autour du jeune, puisque les parents ne peuvent ou ne le font pas. Parfois, ça c'est un point important. Ensuite, pour répondre à votre question, le principe de la prévention spécialisée, c'est d'intervenir donc sur un territoire. Et sur le territoire, il y a des personnes de la société civile, il y a des associations de bénévoles, il y a des personnes qui peuvent aussi faire figure de référence sur le plan éducatif auprès des jeunes. Voilà. Parfois, on a d'anciens jeunes qui ont été suivis également et qui se mettent à notre disposition pour mener des activités, pour faire comprendre leur parcours aussi. Et ça, on le recherche. Oui, on le recherche. C'est quelque chose qui est recherché.
Qu'il faudrait développer ?
Qu'il faudrait nécessairement développer. Il faudrait surtout qu'il y ait beaucoup plus d'acteurs qui essayent de susciter justement cette présence de la société civile auprès des jeunes. C'est ce que Jean-Pierre Rosenzweig disait. Moi, je le partage tout à fait. On essaye de le mettre en œuvre au niveau de la prévention spécialisée. spécialisés. On le fait d'ailleurs très concrètement, mais il faudrait plus d'acteurs qui suscitent finalement des actions en ce sens. Et il aurait été bon que le rapport, ce rapport en fasse état, ou que ce soit au sein du rapport
lequel,
de protection de l'enfance.
Sur lequel la réforme s'appuie, c'est un rapport parlementaire donc, qui a été, dont les conclusions ont été rendues l'hiver dernier, sur lequel cette réforme donc, s'appuie pour changer en fait, les modalités de la justice des mineurs. Mais quand on parle de ce manque de moyens dont pâtit la justice et la protection de l'enfance et les organismes de prévention et d'accompagnement des jeunes, cette question-là des moyens, elle n'est pas nouvelle. Encore une fois, des juges pour enfants ont publié une tribune l'hiver dernier pour dire que la justice était en passe de devenir fictive, qu'on ne pouvait pas appliquer parce qu'il n'y avait pas de moyens, qu'on ne pouvait pas appliquer les mesures déjà mises en place. Comment aujourd'hui, comment déjà vous expliquez-vous à votre échelle, Stéphane Tréguer, cette surdité-là par rapport au manque de moyens, parce que c'est une question qui n'est pas évoquée pour la première fois, et comment faudrait-il la mettre sur la table des débats ?
Alors, c'est ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un décalage entre finalement la mesure qui est prise et la capacité de l'administration, en l'occurrence du ministère de la Justice, la protection judiciaire de la jeunesse, à la mettre en œuvre. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut un délai entre le moment où la mesure est prise par le magistrat et le moment où la mesure est concrètement mise en application. Il y a un délai extrêmement important. Ou alors, on est dans une autre configuration, comme pour les éducateurs de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Ils ont un tel nombre de suivis que, de facto, ils ne peuvent pas rencontrer le jeune suffisamment souvent. Un salarié en France travaille, ou un agent pour la PJJ, travaille 35 heures. Vous comprenez bien qu'en ayant 25 mesures à suivre, avec des réunions également qui se surajoutent, combien d'heures par mois, concrètement, peut-il rencontrer le jeune alors que les problématiques sont largement installées ? C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une insuffisance aussi du lien social entre le jeune et le travailleur social.
Faute de temps,
effectivement, alors on peut dire moyen, c'est plus de temps.
Oui.
Ça, je pense que c'est un point important. Et puis, quand il s'agit d'une mesure, par exemple, pour intégrer un établissement ou en milieu ouvert, effectivement, il faudrait un temps plus restreint entre le moment où la mesure est prise et le moment où elle est mise en application concrètement. Les magistrats n'ont pas non plus de vision. Il n'y a pas de logiciel, ça, je crois que c'est mentionné dans le rapport également. Il n'y a pas de logiciel qui permet aux magistrats de voir en temps réel où sont les places. Ça, c'est un handicap pour eux considérable.
Jean-Pierre Rosenzweig, le seuil de responsabilité pénale est établi à 13 ans. Vous l'avez souligné tout à l'heure. C'est une mesure à laquelle on pourra faire exception, donc qui n'est pas vraiment importante, même si elle est présentée comme dans les premières lignes, comme étant dans les premières lignes de cette réforme. Si un délinquant mineur avant 13 ans commet une infraction, par qui est-il? Pourra-t-il être pris en charge? C'est la question aussi qui se pose. C'est est-ce que au niveau local, municipal, départemental, les délits vont être pris en charge?
Alors, deux éléments pour vous répondre. La première chose, de fixer un seuil d'âge, c'était répondre à la demande de la Convention internationale sur l'enfant, les articles 37 et 40, qui demandent que chaque État fixe un seuil d'âge sous lequel on ne puisse pas être délinquant. Aujourd'hui, on fonctionne en France sur le concept de discernement.
Ah, on vous a perdu.
C'est pas grave, je peux poursuivre.
Alors, oui, vous pouvez poursuivre, Stéphane Tréguer, sur ce seuil de responsabilité pénale.
Alors, effectivement, ça varie en fonction des pays. Je crois que le plus bas seuil, c'est 8 ans, c'est pour l'Écosse et la Grèce, parce que l'Écosse a un système judiciaire indépendant.
C'est-à-dire qu'à ce moment, dans ces pays-là, un enfant de 8 ans peut aller en prison?
Alors non, parce que je connais pas, on va pas faire du droit comparé, et puis je connais pas le détail de la justice en Écosse, mais à partir de ce moment-là, une mesure peut être prise. C'est-à-dire que il faut considérer que la plupart des enfants en dessous de 13 ans ont une mesure qui, enfin, il faut pas se représenter la mesure forcément comme l'emprisonnement. C'est-à-dire que cette loi, elle vient parce qu'il y a eu deux faits majeurs à l'époque. Si on se souvient bien, c'est un jeune dans une classe, un élève dans une classe qui menace son enseignante. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était à l'automne dernier. Et la deuxième chose, c'est un mineur de 10 ans qui avait mis le feu à un immeuble. On ne sait pas si c'est volontaire ou pas. Et c'est suite à ça qu'il y a eu une réflexion. Donc on est encore sous le phénomène d'actualité. Ce qui est important, c'est que effectivement, il y a une règle qui a été mise en place. C'est-à-dire que, il y aura une règle en place. La responsabilité pénale est à 13 ans. Maintenant, immédiatement après qu'on l'ait fait, on met une exception. C'est-à-dire C'est-à-dire que le magistrat pourrait y déroger prendre des mesures plus importantes, prendre des mesures importantes sur le champ pénal en dessous de 13 ans. C'est-à-dire qu'on crée le régime et on crée tout de suite une exception. Ce n'est pas logique. On disait la même chose tout à l'heure pour l'excuse de minorité. C'est-à-dire que des mineurs de 16 à 18 ans peuvent être condamnés aux mêmes peines que les majeurs si on lève l'excuse de minorité. Donc à chaque fois, on crée des exceptions. Donc c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens. Ensuite, non, donc, je ne pense pas qu'un enfant de moins de 13 ans ira en prison.
Est-ce qu'il existe aujourd'hui une justice des mineurs, Jean-Pierre Rosenzweig?
Écoutez, pour répondre à votre question, et ça vient de dire à l'instant, le fait de fixer un seuil d'âge à 13 ans est une escroquerie. Comme d'habitude, on reconnaît les droits des enfants et on prévoit immédiatement l'exception. Tu as le droit d'être entendu par ton juge si j'estime que ton intérêt est de ne pas l'être. Alors maintenant, pour répondre à la question que vous posez tout à l'heure, c'est si la justice n'intervient pas, il va bien falloir que des réponses existent. Elles ne peuvent pas être familiales puisqu'il y a une carence familiale. Donc il faut qu'elles soient territoriales. Soit c'est le département qui met en œuvre une politique de prévention de la délinquance à travers les clubs équipes de prévention, soit à travers l'aide sociale à l'enfance. Mais ça veut dire un transfert de charges, c'est-à-dire une augmentation des charges des départements de la part de l'État. Soit ce sont les municipalités qui interviennent, à travers notamment une démarche qui existe depuis 2007, mais qui n'a pas eu un grand succès, qui sont les conseils droits et devoirs des parents. C'est-à-dire des services sociaux, sous l'égide du maire, rencontrent les parents et l'enfant et essayent de voir où sont les dysfonctionnements. Là encore, c'est un transfert de charges. Le problème...
Et ce transfert ces moyens dans ce transfert de charges sont prévus?
Non, bien entendu. Et bien entendu que c'est pas prévu. Et comme ça se fait à 150 à l'heure sous forme d'ordonnance, le débat social avec les maires et les départements n'a pas eu lieu. Et on va donc avoir demain une sorte de, entre guillemets, mini-révolte de la part des départements et des maires disant, mais une nouvelle fois, vous nous chargez la barque sans qu'on ait eu le temps de travailler. C'est pour ça que l'entame de votre échange tout à l'heure en disant ça se fait sous voie d'ordonnance, ça a pu passer comme étant une critique politique, un petit peu polémique. En réalité, c'est le fond. Une réforme de cette nature-là, il faut qu'elle soit discutée avec les associations, comme celle que préside notre ami Feuvert, ou celle que je préside moi avec Espoir. Il faut qu'elle soit discutée avec les professionnels, il faut qu'elle soit discutée avec les parlementaires, et avec les conseils généraux, les municipalités. On travaille pendant 20 ans ou dans 30 ans, donc il faut s'inscrire dans la durée. Il faut que l'État tienne ses engagements. L'État ne tient pas ses engagements en mettant pas les moyens à la justice qui lui sont nécessaires. Et ça, depuis 2012-2014, le budget de la PJ a diminué. Et on le met où? Dans les centres éducatifs fermés à 600-800 euros par jour. Donc il faut que l'État soit augmente ses moyens, soit les redéploie, qu'il redevienne crédible auprès des départements et des municipalités, qu'il incite ceux-ci à s'occuper des jeunes qui ont moins de 13 ans. À ce moment-là, on aura une réforme harmonieuse.
Eh bien, merci.
On s'apprête à changer la loi sans donner les moyens de mettre en œuvre la loi.
Merci. Merci beaucoup Jean-Pierre Rosenzweig. On aura compris donc l'impératif d'inscrire ces réformes dans la durée et de travailler avec les acteurs de terrain et de clarifier cette notion de moyens mis en œuvre pour mettre en place ces réformes. Merci beaucoup à vous et à vous aussi Steven Traeger, directeur général de la Fondation Feu Vert, Jeunesse Feu Vert. Dans un instant, un autre plateau, on parle de la situation des Rohingyas.
Na mutação do meu desenho e cores escorre tintas das flores de um coração devastado. Quero sangrar todos os climas e tempos, já que eu não posso levar as estações que passam. Sangria, um copo pra misturar a água clara dos olhos e o fruto doce do sol. Transforma.
Sangria, complainte d'un cœur dévasté, d'une nature qui saigne, de la chanteuse brésilienne Seu, titre sorti sur l'album Tropics en 2016.
Le magazine du week-end, Émilie Chaudet.
2 ans aujourd'hui que des violences ont éclaté dans l'état de Rakhine en Birmanie. L'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan, faction armée musulmane, a lancé l'assaut sur 30 commissariats de police et une base armée. 80 insurgés meurent ce jour-là, ainsi que 12 policiers. C'était donc le 25 août 2017. Il y a un avant et un après cet événement. Avant, ça remonte assez loin, à la fin des années 70, lorsque 20 ans après le coup d'état, le général Win Myint, qui gouverne la Birmanie, instaure une loi de nationalité. Les races nationales, les Rohingyas, et puis les Rohingyas qui ne sont plus officiellement birmans et qui deviennent donc la cible d'attaques ciblées, qui se transforment en pogroms et en opérations de nettoyage ethnique jusqu'en 2012. Et après ce 25 août, 700 000 Rohingyas traversent la frontière pour se réfugier au Bangladesh dans des camps, le plus souvent 10 000 Rohingyas tués, des centaines de villages brûlés, des viols, des tortures, et tout cela dans un silence assourdissant des autorités nationales et internationales, comme on va le voir avec nos invités. Sophie Brondel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice de l'ONG Info Birmanie, une association présentée pour la démocratie et la paix et le respect des droits humains. Vous informez et vous plaidoyez auprès des autorités françaises, notamment sur la situation des réfugiés Rohingyas, entre autres. Et au téléphone, Guillaume Pajot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant et spécialiste de la Birmanie.
There are, of course, ways in which we...
Il y a de quoi penser que la situation aurait pu être mieux gérée. Mais nous croyons que pour préserver la stabilité de long terme et la sécurité, nous devons être équitables avec tout le monde. Parmi les Arakanais, il y a une mosaïque de petits groupes ethnico-religieux. Il n'y a pas simplement les musulmans d'un côté et les Arakanais de l'autre, comme le pensent la plupart des gens. Par exemple, il existe de très petits groupes ethniques qui disparaissent à vue d'œil, mais personne ne s'intéresse à eux. Et pourtant, ce sont bien eux qui pourraient disparaître complètement parce que certains de ces groupes ne représentent maintenant plus que quelques milliers de personnes.
Aung San Suu Kyi, ministre birmane des Affaires étrangères, porte-parole de la présidence birmane et prix Nobel de la paix en 91, ici interrogée par des journalistes de l'agence Reuters, qui lui demande il y a un an comment elle se sent par rapport à cette minorité musulmane, celle des Rohingyas, qui ont dû fuir au Bangladesh. Et elle répond que la situation aurait pu être mieux gérée. Beaucoup d'ONG à l'époque ont regretté le déni d'Aung San Suu Kyi. Elle s'était même vue à l'époque retirer par Amnesty International le prix ambassadeur de la conscience. Et un an après cette interview, dont on vient d'entendre un extrait, le déni, c'est toujours ce que vous observez, Sophie Brondel, auprès des autorités birmanes tout d'abord.
Oui, tout à fait. Les autorités birmanes maintiennent leur déni par rapport à ces violences et à leurs qualifications, puisqu'on parle de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Donc il y a toujours un déni total de la part des autorités birmanes. Mais par rapport à l'extrait que vous venez de diffuser et qui est à mon sens très évocateur, ça va bien au-delà et les enquêteurs de l'ONU depuis maintenant un an publient plusieurs rapports qui montrent qu'on n'est plus seulement dans le déni ou dans le silence, c'est-à-dire que par rapport aux données dont on dispose de ce qui se fait et ce qui se poursuit sur le terrain, on est vraiment dans la poursuite d'une politique d'apartheid vis-à-vis des Rohingyas et avec des informations très inquiétantes sur cette politique qui se poursuit, des villages qui continuent d'être brûlés, d'être détruits et une population qui est toujours la victime donc de cette politique avec un système de persécution qui n'évolue pas et qui se maintient. Donc ça va bien au-delà du déni. On est dans la poursuite d'une politique en dépit de la réaction de la communauté internationale au lendemain de cette crise.
On peut lire d'ailleurs sur le site dont vous êtes la coordinatrice Info Birmanie qu'aucune réforme législative significative pour remédier à l'impunité de l'armée et mettre un terme aussi à l'exclusion structurelle et institutionnelle vécue par les Rohingyas n'ont été mises en place. Guillaume Pajot, comment est-ce qu'on peut qualifier aujourd'hui, 2 ans après le début de ces violences, la situation en Birmanie et au Bangladesh?
Après 2 ans, on a l'impression que la situation a vraiment très très peu évolué. Les gens qui ont traversé la frontière et qui sont aujourd'hui réfugiés au Bangladesh sont toujours au Bangladesh, dans une situation qui se détériore. Les populations locales qui avaient accepté assez facilement ces musulmans qui vivaient de l'autre côté de la frontière et qui les avaient aidés au départ, aujourd'hui... ont plutôt envie que les Rohingyas retournent en Birmanie. Il y a de plus en plus de tensions, il y a des couvre-feux dans les camps, ce qui fait que la situation est très difficilement contrôlable et ces gens vivent dans l'incertitude côté Bangladais en se demandant quel jour ils vont rentrer en Birmanie et surtout dans quelles conditions ils vont rentrer. Mmh. Comme l'expliquait bien Sophie Brandel, la situation dans l'Arakane côté birman continue de se détériorer, la politique d'apartheid menée par le gouvernement birman continue de s'aggraver et rien ne s'arrange pour les Rohingyas qui sont restés en Birmanie.
Oui, c'est ça, c'est qu'il y a déjà 3 jours, des opérations de rapatriement avaient été mises en place. Il y avait des listes qui prévoyaient 300 retours par jour de réfugiés Rohingyas en Birmanie, dans l'état d'Arakane. Sans succès, en fait, les réfugiés Rohingyas veulent rester dans leur camp de réfugiés parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Sophie Brondel, est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte que ces conditions de sécurité soient présentées à une instance supranationale? Est-ce qu'on peut garantir la sécurité d'un retour des réfugiés Rohingyas, en tout cas au niveau supranational?
Pour le moment, on voit bien que donc, les conditions de sécurité ne sont pas réunies et on ne voit pas en fait de quelle manière elles pourraient l'être à court ou moyen terme par rapport à la poursuite de la politique des autorités birmanes qui continuent leur politique et qui reste insensible en tout cas face aux critiques internationales. Par rapport à la tentative de rapatriement que vous évoquez, il faut souligner que c'est la troisième depuis janvier 2018 et que malheureusement, c'est un effet d'annonce. Les autorités birmanes annoncent ce rapatriement face à la pression internationale tout en sachant qu'elles n'ont pas la volonté de le mettre en œuvre et qu'il n'aura pas lieu parce que les Rohingyas ne peuvent pas rentrer. Et c'est vrai que les recommandations et les revendications des Rohingyas, c'est effectivement une exigence de justice. Ils ne peuvent pas rentrer tant que les auteurs de ces exactions n'auront pas été jugés. Ils ne peuvent pas rentrer tant que leur liberté de mouvement, leurs droits et leur citoyenneté ne seront pas reconnus. Du coup, c'est vrai que cette annonce de rapatriement, on savait que les Rohingyas n'allaient pas rentrer. Et pour permettre qu'ils rentrent, il faut effectivement que les auteurs de ces exactions soient jugés, qu'il y ait une perspective de justice, alors qu'à l'heure actuelle, il n'y en a aucune en Birmanie. Et il faut bien souligner que les autorités birmanes mettent successivement en place des commissions d'enquête, qui n'enquêtent jamais, et qui d'ailleurs déclarent elles-mêmes n'avoir pas pour but de cibler et d'identifier des responsables. Donc c'est tout à fait problématique. Et il faut dire aussi que les quelques militaires qui ont été condamnés pour des violences contre des Rohingyas ont été libérés dans le plus grand secret par les autorités birmanes. Et on l'a appris par Reuters, puisque ce sont les militaires qui avaient été mis en cause par l'enquête des journalistes de Reuters. Donc impunité totale en Birmanie.
Qui ont été emprisonnés.
Oui. Qui ont été emprisonnés et jugés. Donc les journalistes de Reuters qui ont enquêté sur les massacres de Rohingyas ont effectué plus de détentions que les militaires qui ont été qui ont commis ces crimes. Donc impunité totale, et on ne voit pas très bien à l'heure actuelle comment la communauté internationale, en poursuivant sa politique actuelle, pourrait infléchir la situation sur le terrain. Il faut vraiment changer de perspective.
Et est-ce qu'on est dans une impasse, Guillaume Pajot, concernant les pressions que peuvent former que peuvent exercer la communauté internationale? Aux États-Unis, donc Barack Obama avait fait de la Birmanie un partenaire de choix au niveau diplomatique, mais aujourd'hui, Donald Trump ne traite pas avec des interlocuteurs birmans. Le président Emmanuel Macron avait vraiment utilisé le mot de génocide en 2017 quand il venait d'être élu pour qualifier les massacres de civils Rohingyas. Aujourd'hui, on ne l'entend plus beaucoup sur ce sujet. Quels interlocuteurs peuvent avoir la Birmanie et surtout quels interlocuteurs qui peuvent faire pression sur ce pays?
Je pense que parler d'impasse, ça voudrait dire que la communauté internationale s'est déjà engagée fortement sur ce sujet des Rohingyas et pour l'instant, malheureusement, c'est pas encore le cas. La communauté internationale s'est beaucoup engagée avec la Birmanie sur des questions économiques, en voulant soutenir dès 2011-2012 une transition politique qui aujourd'hui ne porte pas ses fruits. Et l'interlocuteur choisi par Barack Obama, par la communauté européenne, c'était Aung San Suu Kyi. Elle centralisait toute la volonté internationale de changement politique dans le pays.
Et sa gestion de la crise ne l'a pas discrédité ?
Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde commence à comprendre. C'est-à-dire que peut-être que miser sur Aung San Suu Kyi, c'était une erreur. Alors, je pense que c'est à la fois, entre guillemets, la faute des pays internationaux qui, en se concentrant sur un seul acteur, minimisaient leur marge de manœuvre. Et puis, c'est aussi le caractère d'Aung San Suu Kyi, sa façon de procéder politiquement. C'est une personnalité qui est très centralisatrice, très exclusive. Et elle a centralisé un petit peu toute cette transition politique. Et aujourd'hui, la communauté internationale est un petit peu désemparée. Elle est entre deux eaux. Après avoir tout misé sur Aung San Suu Kyi, aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est effectivement dans une stratégie de, pas de silence, mais de déni, effectivement, de relativisation de ce qui s'est passé dans l'état d'Arakan. Et je pense que la communauté internationale est un petit peu désemparée face à ça. Et on est dans un moment de flottement où ils ne savent plus trop comment s'engager par rapport à la Birmanie et comment trouver des leviers pour faire évoluer la situation.
Quand on parle de communauté internationale, Guillaume Pajot, on parle de quel pays, de quelle puissance exactement ?
Je pense que, comme vous l'évoquiez, les États-Unis ont vraiment opéré un virage depuis l'élection de Donald Trump. Barack Obama était très engagé auprès de la Birmanie et plus largement de l'Asie. Il voulait vraiment faire de la transition politique en Birmanie un succès de politique étrangère. Malheureusement, on a vu que les persécutions à l'encontre des Rohingyas ont complètement bouleversé son approche et ont complètement remis en question aussi le travail qui avait été fait en Birmanie par les États-Unis. On peut rappeler que Donald Trump a reçu il y a quelque temps dans son bureau des victimes de violences, notamment Nadia Mourad, yézidi, victime de violences sexuelles, et un Rohingya qui s'est présenté à Donald Trump, qui a dit « Je suis Rohingya, j'ai été persécuté, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider ?» Et Donald Trump l'a regardé et lui a répondu « Mais Rohingya, c'est où ?» Voilà.
Et on a peut-être avancé sur une chose au niveau de la communauté internationale, et peut-être grâce aux enquêtes, aux différentes enquêtes de l'ONU, c'est sur la caractérisation des violences, Sophie Brondel. Mais d'abord, je vois que vous vouliez réagir aux propos de Guillaume Pajot.
Oui, mais peut-être pour répondre à votre question sur la caractérisation, effectivement, l'ONU a énormément avancé sur la qualification des crimes et maintenant recèle des éléments de génocide. Donc on peut parler de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre à l'encontre des Rohingyas et aussi à l'encontre d'autres minorités dans les États Chan et Kachin. Donc c'est une situation globale sur laquelle l'ONU enquête. Mais par rapport aux Rohingyas et justement cette avancée de qualification, on pouvait s'attendre à des réactions beaucoup plus fortes puisqu'on parle d'un génocide. Et c'est là que la position et l'attitude de la communauté internationale et de certaines autorités interroge. Et comme le disait Guillaume Pajot, c'est vrai que je pense que la politique menée est tout à fait sous l'influence de ce soutien passé à la figure d'Aung San Suu Kyi.
Prix Nobel de la paix
voilà, et au fait de vouloir à tout prix donc soutenir la transition démocratique en cours, alors que les enquêteurs de l'ONU eux-mêmes en septembre 2018 disaient que cette transition démocratique était à l'arrêt. Et il y a quand même, il y a un génocide dans ce pays, des crimes, des violations massives des droits de l'homme. Donc est-ce qu'on peut encore parler de transition démocratique et que faut-il faire pour soutenir un processus qui en est au point mort, et ça influe beaucoup la position des autorités. Et pour en revenir à notre pays, à la France, il est vrai que la France prend peu position par rapport à ce qui se passe actuellement en Birmanie. Les réactions officielles sont très rares. Alors la France joue un rôle actif au sein des instances internationales pour faire adopter des résolutions par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et donc elle joue un rôle, mais en termes de positionnement officiel, elle est en retrait à mon sens par rapport à d'autres pays. Je prends l'exemple de la Suède, du Canada, des Pays-Bas, qui ont officiellement appelé à ce que le Conseil de sécurité saisisse la Cour pénale internationale, parce que c'est une position de principe en fait par rapport à la gravité des crimes. Et la France ne prend pas position sur ce point. Et à mon sens, c'est quand même une erreur. Et on attend ce positionnement de la France. On en attend d'autres, et vous évoquez donc la mission de plaidoyer qu'on a auprès des autorités, ne serait-ce que de mettre sous sanction le commandant en chef de l'armée birmane, Min Aung Hlaing. Il a été mis sous sanction par les autorités américaines. Alors ce sont juste des interdictions de séjour aux États-Unis, ça reste très symbolique, mais au moins il est nommé, c'est un premier pas. Et au niveau de l'Union européenne, ce commandant en chef de l'armée birmane n'est pas visé par les sanctions de l'Union européenne. Donc ça, c'est quelque chose de très concret qui devrait être fait. et qui n'est pas fait jusqu'à présent. Donc il y a toute une série comme ça de mesures qui ne sont pas prises et aussi de positionnements qu'on attendrait face à la gravité de la situation, avec justement ce silence et qui est lié à une sorte d'impasse dans laquelle on se trouve, à vouloir soutenir une transition démocratique qui n'existe pas, qui n'existe plus, en tout cas qui pose question, et des autorités civiles qui ne sont pas seulement dans le silence, mais qui participent en fait des violations des droits de l'homme. Et ça, c'est établi par l'ONU.
Guillaume Pajot, vous qui retournez régulièrement en Birmanie, est-ce qu'il y a dans l'opinion publique une sensibilité par rapport à cette question, par rapport aux deux journalistes de Reuters qui ont été aussi jugés, incarcérés, retenus longtemps? On a vu des mobilisations de la société civile et donc peut-être un début d'éveil et de sensibilité par rapport à l'information, aux exactions de l'armée et aux violences infligées aux réfugiés Rohingyas par extension?
Malheureusement, l'opinion publique birmane reste figée sur une vision des Rohingyas qui est une vision raciste. C'est une ethnie qui est largement déconsidérée en Birmanie. Même une partie des musulmans birmans qui ne sont pas Rohingyas ne se sentent pas forcément solidaires par rapport à cette ethnie persécutée. Et les journalistes de Reuters qui est une agence britannique, ont été considérés aussi par beaucoup de Birmans comme des gens, voilà, qui avaient cherché la petite bête, qui avaient mérité ce qui leur arrivait, qui avaient été trop loin. Et on note malheureusement très peu de solidarité par rapport aux journalistes qui essaient de faire un travail équilibré et qui essaient d'enquêter sur ce qui s'est déroulé dans l'état d'Arakan. Donc malheureusement, on est très très loin encore d'un éveil de la population birmane ou d'une sensibilité particulière à cette question-là. Pour l'instant, la vision de la société en Birmanie est une vision très hiérarchisée, avec des divisions ethniques, religieuses extrêmement ancrées. C'est très difficile pour la population birmane d'évoluer sur ces questions-là, d'autant plus que le pouvoir politique ne fait plutôt que surfer sur ces divisions, plutôt que d'essayer de rapprocher les communautés.
Et qu'il y a sans doute aussi un manque d'information quant à ce qu'il se passe dans les camps de réfugiés et dans l'état d'Arakan.
Clairement, mais je pense aussi que ça n'intéresse pas, malheureusement pour l'instant, la population birmane. C'est-à-dire, c'est un sujet sur lequel l'avis général de 95% de la population est arrêté déjà. Les Rohingyas sont des gens qui viennent du Bangladesh, qui ont vocation à y retourner. Ils sont clandestinement en Birmanie et à terme, leur seul destin est de retourner au Bangladesh. Voilà, ça c'est la vision en Birmanie, de la façon dont on considère les Rohingyas. Et tant que ça n'aura pas évolué, malheureusement, l'opinion publique continuera de considérer la question et ces musulmans de l'ouest du pays comme étant des étrangers, des gens qui n'ont pas droit à la citoyenneté et qui ont vocation à retourner de l'autre côté de la frontière.
Donc une situation bloquée puisque, Sophie Brondel, au Bangladesh, on considère que accueillir plus de réfugiés Rohingyas, ce serait vraiment un appel d'air à d'autres et que le pays ne s'en sortirait plus économiquement.
Oui, les autorités bangladaises sont sous pression. On peut comprendre que c'est très difficile pour les autorités de ce pays de prendre en charge autant de réfugiés sans solution alternative d'ailleurs de la part de la communauté internationale. Donc le Bangladesh se retrouve quand même seul à gérer cette situation. Mais ce qui est inquiétant, c'est que tout récemment, enfin, par rapport à ce rapatriement qui était annoncé jeudi et qui n'a pas eu lieu, le ministre des Affaires étrangères bangladais a dit que les Rohingyas prenaient son pays en otage. C'est-à-dire que ce qui est inquiétant, c'est que les autorités bangladaises, alors pour des raisons à la fois politique, mais aussi parce qu'elles ne peuvent plus ou ne veulent plus par rapport à leur population, puisque comme le disait Guillaume Pajot, les relations aussi entre les Bangladais sur place et les Rohingyas ne sont pas simples, comme on peut l'imaginer par rapport aux conditions de vie sur place. On peut craindre que les autorités bangladaises, notamment, alors mettent en œuvre ce plan de relocalisation des Rohingyas sur une île dans le golfe du Bengale qui n'est pas viable. Donc on ne décèle aucune perspective en fait pour les Rohingyas au Bangladesh, avec un risque effectivement que les autorités ne veuillent plus les accueillir. On ne sait pas à quoi ça pourrait mener, mais effectivement sur place c'est très inquiétant.
Vu de très loin, on a quand même l'impression aussi que les autorités birmanes ne laissent pas, n'osent pas tout à fait laisser tomber cette question des réfugiés Rohingyas au Bangladesh. Il y a des délégations qui se déplacent. Alors, on ne sait pas vraiment ce qu'elles y font et ce qu'elles se disent. Mais en tout cas, il y a des visites, des contacts. Un ministre d'État a récemment aussi utilisé le terme de nationaux pour qualifier les Rohingyas, ce qui n'est plus du tout possible depuis un certain temps au vu de la loi sur les nationalités. Qu'est-ce que ça veut dire, Sophie Brondel, et après Guillaume Pajot, sur cette timide évolution, s'il y en a une, ou est-ce qu'on peut déjà appeler ça une évolution de la situation?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu deux visites de délégations birmanes, pour la première fois, donc, au Bangladesh, auprès de ces réfugiés. Les Rohingyas qui ont été reçus ont critiqué cette visite, parce qu'ils ont considéré que les autorités birmanes n'avaient pas vraiment la volonté d'écouter leurs revendications, et qu'il s'agissait plutôt, je pense, d'un effet d'annonce, malheureusement, parce que les autorités birmanes ne bougent pas sur les revendications des Rohingyas. Donc, est-ce qu'elles sont vraiment à l'écoute de ces revendications? Je ne le pense pas pour le moment. Et vous évoquiez donc effectivement ce ministre qui a mentionné les Rohingyas comme des nationaux. Mais dans la foulée, le porte-parole de la présidence birmane a tout de suite annoncé qu'il lancerait des poursuites judiciaires contre tout responsable politique qui utiliserait ce terme pour désigner les Rohingyas. Donc, bien sûr, c'est un premier pas, parce que, en tout cas, en termes d'affichage, il faudrait que ces rencontres se poursuivent, mais il faudrait que la politique soit infléchie. Et pour le moment, c'est plus de la communication. Sachant que je voulais mentionner, par rapport à cette évolution, la société civile birmane, en écho à ce que disait Guillaume Pajot, n'est pas sensible à la cause Rohingya, mais il y a quand même des membres de cette société civile qui essayent en fait de faire évoluer la situation dans leur pays et qui se sont rendus dans les camps pour rencontrer des Rohingyas et qui essayent de tisser des passerelles. Mais bien sûr, ce n'est pas rendu public, on ne le sait pas, enfin, ce n'est pas quelque chose dont on parle, mais...
Ce sont des associations, des personnes
isolées ? Oui, des individus, des associations, et donc qui sont là et qui sont très minoritaires par rapport à ce qu'évoquait Guillaume Pajot, mais qui existent. Donc l'exemple doit venir d'en haut, des autorités, mais peut-être que cette société civile, à terme, pourrait aussi peser. Mais...
Guillaume Pajot, est-ce que ces visites d'affichage des autorités birmanes dans les camps de réfugiés au Bangladesh, c'est peut-être un témoignage du fait que la Birmanie se sent quand même un peu regardée par la communauté internationale?
Je pense que ces visites sont une façon de donner des gages. Malheureusement, elles sont pas satisfaisantes en tant que telles, et ça reste du spectacle diplomatique, comme ces retours, comme l'expliquait Sophie Brondel, brutalement annoncés. Voilà, on va rapatrier des Rohingyas, on fait circuler une liste, les gens qui sont sur ces listes ne sont pas au courant, et au final, quand vient le jour du rapatriement, personne ne se présente, car personne n'a envie de rentrer. Je pense, pour prolonger un peu ce qui a été dit un petit peu plus tôt, sur la situation au Bangladesh, on a l'impression effectivement aujourd'hui que la situation est totalement bloquée. On pourrait penser que voilà, les choses peuvent continuer comme ça pendant plusieurs années. En réalité, c'est aussi une situation qu'il faut que les auditeurs en aient conscience, qui dégénère. C'est-à-dire, les conditions dans lesquelles les gens vivent au Bangladesh, pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire dans la rakane, ils ne peuvent pas y retourner parce que leur sécurité n'est pas garantie, leur citoyenneté n'est pas accordée. Mais au Bangladesh, en tant que réfugié, c'est une situation très difficile. Le Bangladesh ne leur permet pas de travailler, de sortir des camps. Les fonds, l'appel au fond de la communauté internationale pour pouvoir subventionner l'aide humanitaire dans les camps n'a pas rempli ses objectifs. C'est-à-dire qu'on a estimé un certain nombre, financièrement parlant, de l'aide nécessaire aux Rohingyas et il n'y a pas eu assez d'argent débloqué pour les années à venir pour leur venir en aide. Donc ils sont dans une situation d'extrême précarité, et la communauté bangladaise qui vit autour d'eux a très envie que la situation bouge vite et accuse les Rohingyas d'accaparer l'aide humanitaire, d'accaparer les services sociaux et parfois aussi à tort sans doute de prendre leur travail, voilà, alors que les Rohingyas vivent grosso modo sous la coupe de la police dans des camps de réfugiés. Voilà. Donc la situation est vraiment très difficile, elle ne fait que s'envenimer avec le temps, puisqu'on ne propose pas à ces gens de perspective. Voilà. Ça passe aussi par des choses assez psychologiques, psychiques. Voilà. C'est des gens qui vivent comme ça depuis déjà 2 ans, après avoir connu en Birmanie une situation déjà très difficile. On voit que dans les camps de réfugiés aujourd'hui, beaucoup de maladies psychiatriques, voilà, des dépressions, etc. se développent, car ces gens n'ont pas de perspective, ils ne savent pas quoi faire.
Sophie Brondel, sur cette question.
Oui, pour faire écho à cette situation qui se dégrade enfin, au Bangladesh et en Birmanie. Il y a 61 organisations humanitaires qui travaillent auprès des Rohingyas au Bangladesh et en Birmanie, qui ont publié une déclaration à l'occasion de ces 2 ans. Et c'est une déclaration qui doit nous alerter et qui devrait interpeller les politiques, parce que ce sont des humanitaires donc qui dénoncent, qui pointent la dégradation de la situation humanitaire, et notamment par rapport à ce que Guillaume Pajot qui indique qu'il n'y a que 34% des fonds qui ont été levés par rapport à ce qui avait été annoncé pour le 2019, mais qui aussi, à la fin de cette déclaration, demande à la communauté internationale de condamner les violences. Et donc, ça montre bien que quand des acteurs humanitaires commencent à interpeller sur ces sujets-là, c'est que la situation est vraiment très, très dégradée.
Mais est-ce que ça suffit? Et c'est l'objet d'une de mes dernières questions, puisque nous arrivons tout doucement vers la fin de cette discussion. C'est que faire, en fait? On a les informations, il y a des enquêtes de l'ONU qui écrivent noir sur blanc les exactions en détail qui sont infligées aux réfugiés, au peuple de l'État d'Arakan et puis aux réfugiés en Bangladesh et à ce qu'ils vivent, ces réfugiés Rohingyas. Il y a des moyens d'intervenir, des moyens de faire porter une voix au niveau international pour inciter, pour pousser, pour faire pression sur l'État birman. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, vous qui interpellez, Sophie Brondel, les élus politiques à l'échelle de la France et qui observez que bon, les choses n'avancent pas quand même si vite et que l'écoute est toute relative. Qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui et qui peut-on interpeller?
Oui, pour préciser votre question, donc nous interpellons les élus, mais dans le cadre d'un collectif interassociatif qui regroupe 10 associations françaises, humanitaires et droits de l'homme. Donc c'est un travail collectif. Nous avons organisé un colloque à l'Assemblée nationale en octobre 2018 sur ce sujet des Rohingyas. Il n'y avait quasiment pas d'élus présents sur place. Donc il y a une difficulté de mobilisation. Il y a des initiatives individuelles, donc elles existent, hein, des députés qui posent des questions écrites au gouvernement et qui sont mobilisés. Mais c'est vrai qu'en France particulièrement, on n'a pas de mobilisation collective comme on peut en voir au Royaume-Uni, aux États-Unis. C'est en partie lié au fait qu'il n'y a pas de diaspora constituée en France. Nous sommes en contact avec quelques réfugiés Rohingyas, mais ils ne sont pas constitués en association, puis ils ne pèsent pas numériquement, donc ils sont inaudibles. Mais ce qu'on peut faire très concrètement, enfin, il suffit que la communauté internationale et les États membres lisent les rapports des enquêteurs de l'ONU et soutiennent les recommandations de ces rapports, très concrètement.
À l'issue d'une lecture et d'un résumé d'un de ces rapports de l'ONU, Sophie Brondel, Info Birmanie, donc l'ONG dont vous faites partie, à formuler cette recommandation qui est d'attaquer l'armée birmane au portefeuille. Comment ça, concrètement, c'est possible?
Ben ça, concrètement, c'est tout à fait possible, puisque les enquêteurs de l'ONU indiquent la voie à suivre. C'est-à-dire qu'il y a ne serait-ce qu'en commençant par 2 conglomérats contrôlés et détenus par les militaires, et en ne rentrant pas dans des relations d'affaires et économiques avec eux. Les enquêteurs de l'ONU ont dressé la liste de toute une série d'entreprises, parmi lesquelles 2 françaises qui ont des liens contractuels ou commerciaux avec ces conglomérats. Il faut les arrêter. Alors, à l'échelle de ce que montrent les enquêteurs de l'ONU, l'économie birmane est gangrénée par l'armée, mais on peut prendre des mesures ciblées et concrètes par rapport à ces conglomérats et à tel partenariat et y mettre un terme. Et ça, c'est tout à fait possible.
Guillaume Pajot, quant à l'issue, et ce sera le mot de conclusion, l'issue possible, un retour possible, est-ce que déjà le retour est envisageable? On peut déjà répondre que non, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser un retour, pour faire en sorte que cette population de réfugiés Rohingyas ne soit pas considérée comme apatride, qui est l'un des pires statuts, dixit l'ONU, qu'un peuple peut avoir en termes de droits au niveau international?
Je pense qu'effectivement, vous faites bien de mentionner le fait que les Rohingyas n'ont pas accès à la citoyenneté et sont considérés comme apatrides. Et je pense que les principales demandes, en tout cas la demande essentielle, la colonne vertébrale un peu de toutes les demandes qui sont émises par les réfugiés Rohingyas, c'est l'accès à la citoyenneté, en tout cas un chemin vers la citoyenneté. On imagine bien que la Birmanie, étant donné la situation actuelle et l'idéologie de la population ne va pas mettre à disposition des cartes d'identité pour devenir citoyen du jour au lendemain, mais en tout cas, je pense que les réfugiés ont envie, ont besoin d'être rassurés par rapport à l'accès à la citoyenneté et se dire que Ils vont être considérés non pas comme des citoyens de troisième zone, mais comme des Birmans parce qu'ils ont vécu là, parce qu'ils sont nés en Birmanie. Et je pense que c'est tout ce qu'ils attendent. Parce qu'avec cette citoyenneté vient des droits sociaux, vient un accès à la justice, vient un accès à la santé, à l'éducation, toutes ces choses-là. Donc je pense que si on est capable de dessiner, si la communauté internationale est capable de dessiner avec la Birmanie, de les inciter à créer un chemin vers la citoyenneté pour les Rohingyas, je pense qu'on peut envisager un retour possible des réfugiés dans leur pays d'origine.
Merci beaucoup en tout cas à vous deux, Guillaume Pajot, journaliste indépendant, Sophie Brondel, coordinatrice de l'association Info Birmanie, d'avoir tenté de clarifier la situation actuelle des réfugiés Rohingyas. Je remercie chaleureusement la précieuse équipe du magazine du week-end qui m'a accompagnée ce mois d'août, Émilie Valla à la réalisation, Benjamin Teinturier, Chloé Rossignol, Isée Sorel, Catherine Donné qui ont préparé ces émissions à mes côtés, et à la prise de son aujourd'hui, c'était Alice Seyed. Mais tout de suite, les idées claires, Nicolas Martin.